Chapitre 5. Red Hook. Il y a certaines choses que l'on apprend mieux dans le calme et d'autres dans la tempête. Willa Cather. Arborant les couleurs de la NYPD, une Ford Taurus était stationnée à l'angle de Broadway et de la 66e rue. « Dépêche-toi, Mike !» À l'intérieur de la voiture, Jody Costello, 24 ans, s'impatientait en pianotant sur le volant. La jeune flic avait intégré la police new-yorkaise au début du mois et son boulot était loin d'être aussi excitant qu'elle avait pu l'espérer. Ce matin, ça ne faisait même pas trois quarts d'heure qu'elle avait pris son service et elle avait déjà des fourmis dans les jambes. Son secteur de patrouille à l'ouest de Central Park couvrait un quartier huppé, beaucoup trop tranquille à son goût. En 15 jours, son activité s'était limitée à renseigner des touristes, courir après des voleurs à l'arraché, verbaliser des automobilistes trop pressés et dégager les ivrognes qui descendaient leur gnôle sur la voie publique. Pour ne rien arranger, on lui avait affecté comme coéquipier une véritable caricature. À 6 mois de la retraite, Mike Hernandez était un vrai boulet. Partisan du moindre effort, il ne pensait qu'à la bouffe et travaillait avec application à en faire le moins possible, multipliant les pauses donuts, les arrêts hamburgers, les haltes Coca-Cola ou taillant la bavette à la moindre occasion avec les commerçants et les vacanciers. Une vision bien personnelle de la police de proximité. « Bon, maintenant ça suffit !» s'énerva Jody. « Il ne faut pas 2 heures pour acheter des beignets quand même !» Elle enclencha les warnings et sortit de la voiture en claquant la porte. Elle s'apprêtait à entrer dans la boutique pour houspiller son coéquipier lorsqu'elle aperçut le groupe de 6 adolescents qui couraient dans sa direction. « Ladrone ! Ladrone !» D'un ton ferme, elle leur ordonna de se calmer avant de consentir à écouter ces touristes espagnols qui baragouinaient un mauvais anglais. Elle crut d'abord à un banal vol de téléphone portable et s'apprêtait à les envoyer déposer plainte auprès du 20e district, lorsqu'un détail retint son attention. « Tu es sûr que tes voleurs étaient menottés ?» demanda-t-elle à celui qui semblait à la fois le moins sot et le plus laid, un gamin vêtu d'un maillot de joueur de foot avec une bouille ronde, des lunettes de myope et une coupe au bol déséquilibrée. « Certain !» répondit l'Espagnol, bruyamment approuvé par ses copains. Jody mordilla sa lèvre inférieure. « Des fugitifs ?» Difficile à croire. Comme chaque matin, elle avait pris connaissance des avis de recherche et des signalements que leur envoyaient ses collègues du Patrol Service Bureau, et aucun ne correspondait à la description des deux malfrats. Obéissant à son intuition, elle sortit du coffre de la voiture sa tablette numérique personnelle. « Quelle est la marque de ton téléphone, mon garçon ?» Elle écouta sa réponse et se connecta au service de cloud computing du fabricant. Elle demanda ensuite à l'adolescent de lui fournir l'adresse de son courrier électronique ainsi que le mot de passe correspondant. Une fois activée, l'application permettait d'accéder au courrier de l'utilisateur, à sa liste de contacts, ainsi qu'à la localisation de l'appareil. Jody connaissait bien cette opération pour l'avoir utilisée 6 mois plus tôt dans sa propre vie amoureuse. Une simple manipulation lui avait permis de pister les trajets de son ex-copain chez sa maîtresse et d'avoir ainsi la preuve de son infidélité. Elle appuya sur l'écran tactile pour lancer la procédure. Un point bleu clignota sur le plan. Si le site fonctionnait, le téléphone du gamin se trouvait à présent en plein milieu du Brooklyn Bridge. Les deux voleurs ne s'étaient visiblement pas contentés de dérober un téléphone. Ils avaient aussi dupliqué une voiture, et ils essayaient de quitter Manhattan. Dans son esprit, des pensées optimistes avaient chassé son spleen. L'espoir de travailler enfin sur une véritable enquête, et la possibilité d'une promotion qui lui ouvrirait la porte d'un service plus prestigieux. En théorie, elle aurait dû balancer son information sur la fréquence radio de la NYPD afin qu'une patrouille de Brooklyn arrête les suspects. Mais elle n'avait pas la moindre envie de voir cette affaire lui échapper. Elle jeta un coup d'œil au Dunkin' Donuts. Toujours pas de Mike Hernandez à l'horizon. Tant pis. Elle s'installa au volant, alluma son gyrophare, lança la sirène et mit le cap sur Brooklyn. Ceinturée par les eaux, l'ancien quartier des Dockers s'avançait sur un bout de péninsule à l'ouest de Brooklyn. La Mini arriva au bout de Van Brunt Street, l'artère principale qui traversait Red Hook du nord au sud et se terminait en cul-de-sac. Au-delà, la route laissait la place à une friche industrielle grillagée qui débouchait directement sur les quais. Alice et Gabriel se garèrent le long d'un trottoir défoncé. Toujours entravés par leurs menottes, ils sortirent du véhicule par la même portière. Malgré le soleil éclatant, le paysage était battu par un vent glacial.
« Ça caille ici !»
se plaignit le jazzman en remontant le col de sa veste. Peu à peu, Alice reconnaissait les lieux. La beauté rugueuse du paysage industriel, les entrepôts désaffectés, le balai des grues, la cohabitation des cargos et des péniches. Une impression de bout du monde, à peine troublée par les cornes de brume des ferries. La dernière fois qu'elle était venue ici avec Seymour, le quartier se remettait à peine du passage de l'ouragan Sandy. La marée avait alors inondé les sous-sols et les rez-de-chaussée des locaux situés trop près de l'océan. Aujourd'hui, la plupart des dégâts semblaient heureusement réparés.
L'atelier de Nicky Nikowski se trouve dans ce bâtiment,
indiqua Alice en désignant une imposante construction de briques qui, à en juger par ses silos et sa cheminée, avait dû être une importante manufacture du temps de la splendeur industrielle de Brooklyn. Ils avancèrent en direction de l'édifice qui défiait le front de mer. Les quais étaient presque déserts. Pas l'ombre d'un touriste ou d'un promeneur. Quelques petits cafés et des boutiques de récupération s'alignaient sur Van Brandt Street, mais ils n'avaient pas encore levé leurs rideaux.
« C'est qui au juste, cette femme ?» demanda Gabriel en enjambant le tuyau d'une canalisation.
« Un top modèle qui a connu son heure de gloire dans les années 1990. »
Une petite flamme s'alluma dans les yeux du jazzman.
« Un vrai mannequin ?»
« Un rien vous excite, vous, n'est-ce pas ?»
lui dit-elle d'un ton de reproche.
« Non, je suis juste étonné par cette reconversion, »
répondit-il un peu froissé.
« En tout cas, ces peintures et ces sculptures commencent à avoir leur cote auprès des galeristes.
Votre ami Seymour est amateur d'art contemporain ?»«
Oui, c'est même un véritable collectionneur. Son père lui a transmis cette passion ainsi qu'un conséquent héritage lui permettant de l'assouvir. »
« Et vous ?»
Elle haussa les épaules.
« Moi, l'art, je n'y comprends rien.
Mais chacun son truc. J'ai aussi mon propre tableau de chasse. »
Il fronça les sourcils.
« Et vous y accrochez quoi ?»«
Des criminels, des meurtriers, des assassins. »
Arrivés devant l'ancienne usine, ils restèrent un moment interdits avant de s'apercevoir que la porte en fonte qui fermait l'accès au rez-de-chaussée n'était pas verrouillée. Ils prirent un ascenseur grillagé qui s'apparentait plutôt à un monte-charge et appuyèrent sur le bouton du dernier étage. La cabine s'ouvrit sur une plateforme bétonnée qui menait à une porte métallique coupe-feu. Ils durent sonner à plusieurs reprises avant que Nicky vienne leur ouvrir. Un gros tablier de cuir, des gants épais, un casque anti-bruit, un protège-visage et des lunettes noires. La silhouette avantageuse de l'ex-mannequin disparaissait derrière la tenue du parfait ferronnier.
« Bonjour, je suis Alice Schaeffer. Mon ami Seymour a dû... »«
Entrez, dépêchez-vous !»
la coupa Nicky en relevant son masque et ses verres fumés.
« Je vous préviens, je me fiche de vos histoires et je ne veux pas y être mêlé. Je vous enlève vos menottes et vous vous tirez immédiatement, compris ?»
Ils approuvèrent de la tête et refermèrent la porte derrière eux. L'endroit ressemblait davantage à une ferronnerie qu'à un atelier d'artiste. Uniquement éclairé par la lumière du jour, c'était une pièce sans fin. Aux murs tapissés d'outils les plus divers, marteaux de toute taille, fer à souder, chalumeaux. Les braises ardentes qui rougeoyaient dans le foyer de la forge dessinaient des contours orangés autour d'une enclume et d'un tisonnier. Dans le sillage de Nicky, ils s'avancèrent sur le parquet brut et se frayèrent tant bien que mal un chemin parmi les compositions métalliques qui habitaient l'espace, des monotypes sérigraphiés aux reflets pourpre et ocre qui brillaient sur l'acier, des sculptures en fer rouillé dont les lignes acérées menaçaient de crever le plafond.
Asseyez-vous là,
ordonna la sculptrice en désignant deux chaises défoncées qu'elle avait installées avant leur arrivée. Pressés d'en finir, Alice et Gabriel prirent place de part et d'autre d'un établi. Pendant que Nicky vissait un disque à tronçonner sur une meuleuse d'angle, elle leur demanda de coincer la chaîne des menottes dans les griffes d'un étau. Puis, elle fit vibrer sa machine dans un bruit infernal et s'approcha des deux fugitifs. Le disque trancha le maillon en moins de 3 secondes et le lien se rompit subitement.
Quelques coups, assénés avec un burin pointu, finirent de faire céder les cliquets des bracelets d'acier.
« Enfin !» souffla Alice en massant son poignet à vif et sanguinolent.
Elle bredouilla quelques mots de remerciement, mais Nikovski l'interrompit sèchement.
« À présent, dégagez !» demanda-t-elle en indiquant la porte.
Soulagée d'avoir retrouvé la liberté, le couple obtempéra. Ils retrouvèrent les quais le sourire aux lèvres. Cette délivrance ne répondait à aucune de leurs questions, mais elle marquait une étape, la reconquête de leur autonomie, première marche pour se rapprocher de la vérité. Comme délestés d'un poids, ils firent quelques pas sur les docks. À présent, le vent était tiède. Le ciel, toujours aussi bleu, contrastait avec l'âpreté du décor post-industriel, terrain laissé à l'abandon, enfilade de hangars et d'entrepôts. La vue, surtout, était enivrante. D'un seul regard, on balayait toute la baie de New York, depuis la Statue de la Liberté jusqu'au New Jersey.
« Allez, je vous paie un cappuccino !» proposa Gabriel d'une voix enjouée en désignant un minuscule café installé dans un ancien wagon de tramway recouvert de graffitis.
Alice doucha son enthousiasme.
« Et avec quoi allez-vous le payer, votre café? Vous comptez le voler, lui aussi ?»
Il grimaça, vexé d'être rattrapé par la réalité. Puis, il porta la main à son bras. La douleur qu'il avait déjà ressentie en se réveillant se faisait à présent plus vive. Gabriel enleva sa veste. La manche de sa chemise était tachée de sang. Il retroussa le tissu et aperçut le bandage qui enserrait son avant-bras, une large compresse de tissu imbibée de sang coagulé. En la retirant, il découvrit une sale blessure qui se remit aussitôt à saigner. Tout son avant-bras avait été lardé de coups de cutter. Heureusement, les entailles étaient peu profondes. Des coupures qui dessinaient comme
« une série de chiffres !»
s'exclama Alice en l'aidant à éponger l'hémoglobine. Gravé sur sa peau, le nombre 141 197 ressortait à coups d'encoche sanglante. L'expression de Gabriel avait changé. En quelques secondes, le soulagement de la liberté retrouvée avait fait place à un masque d'inquiétude.
« C'est quoi ce code encore ? Ça commence à me courir sur le haricot, cette histoire de malade. »
« En tout cas, cette fois, ce n'est pas un numéro de téléphone, » jugea Alice.
« C'est peut-être une date, non ? »
s'interrogea-t-il de mauvaise humeur en enfilant sa veste.
« Le 14 novembre 1997. Possible. »
Exaspéré, il chercha le regard de la jeune Française.
« Écoutez, on ne peut pas continuer à errer comme ça, sans papier ni argent. »
« Qu'est-ce que vous proposez ? Aller voir la police alors que vous venez de voler une voiture ?»«
Mais c'était à cause de vous. »«
Oh, quelle bravoure ! Vous êtes un vrai gentleman. Remarquez, c'est facile avec vous, c'est toujours la faute des autres. Je commence à bien vous cerner. »
Il essaya de ne pas s'enflammer et renonça à se disputer.
« Je sais qu'il y a un prêteur sur gage réglo à Chinatown. C'est une adresse que se refilent les jazzmen parfois contraints d'y laisser leur instrument. »
Elle flaira le piège.
« Et qu'est-ce que vous voulez que l'on y dépose ? Votre piano ?»
Il eut un sourire crispé et regarda le poignet de la Parisienne.
« La seule chose que l'on a, c'est votre montre. »
Elle recula de quelques pas.
« Ça, mon vieux, même pas en rêve. »«
Allez, c'est une Patek Philippe, n'est-ce pas ? On pourrait en tirer au moins... »«
Je vous ai dit non !» cria-t-elle. « C'était la montre de mon mari. » »«
Quoi d'autre, alors ? On n'a rien à part ce portable. »
En le voyant agiter le téléphone qu'il avait tiré de sa poche, elle manqua de s'étrangler.
« Vous avez gardé le téléphone ? Je vous avais dit de le balancer. »
« Pas question, on s'est donné trop de mal pour le voler. Et pour l'instant, c'est tout ce que nous possédons. Il peut encore nous servir. »
« Mais on peut nous pister en 3 minutes avec ça. Vous ne lisez jamais de polar ? Vous n'allez jamais au cinéma ?
Ça va, détendez-vous, on n'est pas dans un film, là. »
Alors qu'elle ouvrait la bouche pour l'insulter, elle s'interrompit. Porté par le vent, le ululement d'un deux tons lui fit tourner la tête. Elle se figea quelques secondes devant les éclats de lumière rouge qui barraient la route. Sirène hurlante, gyrophare allumé, une voiture de flic fonçait dans leur direction.